Chapitre 6. Il avait failli y passer, Hassan Morceli. Tiré comme un lapin sans avoir eu le temps de dégainer son SIG Pro flambant neuf. La balle s'était engouffrée sous la clavicule gauche et avait touché le haut du poumon. Une fusillade nourrice en était suivie. L'homme dans la cabane était du genre surarmé. Fusil d'assaut Herstal, revolver Smith & Wesson, 357 Magnum, carabine Gewehrm semi-automatique. Par chance, il n'avait pas eu l'idée de se servir des grenades offensives entassées dans une caisse planquée sous son lit. Tandis qu'on évacuait Morceli, les cinq membres restants du groupe, assistés des gardiens de la paix, avaient donné l'assaut à la baraque. Passant outre les consignes, il s'était occupé du forcené avant l'arrivée de la section du raid. Question d'honneur, le cinquième du groupe avait été blessé par le tueur, on n'allait pas laisser le boulot à d'autres. Edmé avait participé à l'assaut avec un détachement et une efficacité dont il ne se croyait plus capable. À aucun moment, il n'avait craint d'être fauché par une rafale ou une balle perdue. Tendance suicidaire, peut-être. Il suggère de passer par l'arrière de la maison de la jeune mère qu'Hassan et lui ont interrogée quelques minutes plus tôt. Sylvain Teillard se porte volontaire pour l'accompagner dans la manœuvre de contournement. Patrice Giovanni accepte leur proposition à condition qu'ils ne s'exposent pas. On compte déjà un blessé. Il ne s'agit pas de ramener un ou deux morts. Sylvain et Edmé se glisse dans la maison où le bébé, affolé par les coups de feu, pousse des vagissements à fendre l'âme. Effrayée, morte d'angoisse, la jeune femme conduit les deux flics dans le petit jardin situé à l'arrière. Le comportement de Sylvaine, qu'il croyait voué à la paperasse et à la procédure jusqu'à la fin des temps, étonne Edmé. Pourquoi se croit-elle ainsi obligée de braver sa peur? Quoi qu'il en soit, elle n'est pas dépourvue de charme en déesse de la vengeance. Coupant à travers les buissons, ils se heurtent à la clôture de barbelés prise d'assaut par la végétation et abandonnent chacun un bout de tissu et de peau sur les pointes métalliques. Le reste de l'équipe accapare l'attention du tueur en arrosant la cabane. Edmé et Sylvain s'en approchent sans difficulté. Il prend le risque de coller son œil à une petite fenêtre aux vitres tellement sales qu'elles en paraissent opaques. Repère une silhouette décharnée tapie près de la fenêtre opposée. Elle ne regarde pas dans leur direction. Edmé lève son flingue et vise un long moment avant de presser la détente. Une seule balle suffit. Touché à la tête, le forcené sursaute et parcourt 3 ou 4 mètres en battant des bras avant de s'affaler lourdement sur le parquet vermoulu.
« Neutralisé !»
hurle Edmé. Les autres cessent le tir.
« Il ne bouge plus ?»
crie Giovanni. Sylvain fracasse la vitre à coups de crosse et jette un coup d'œil à l'intérieur de la cabane.
« Je crois bien qu'il a son compte. On arrive !»
Mort sur le coup. La balle lui avait fracassé la nuque et perforé le cerveau. Il fallait maintenant attendre les conclusions des techniciens pour savoir pourquoi il avait tiré sur Hassan et Edmé. Si les traces génétiques retrouvées sur la femme étranglée correspondaient au code du forcené, il y avait de fortes chances qu'il fût le meurtrier de la SDF et que, pris de panique en voyant les flics s'approcher de son abri, il eût ouvert le feu. Si on ne trouvait aucun lien entre les deux affaires, il faudrait essayer de comprendre pourquoi cet homme, non répertorié dans les fichiers, avait ainsi pété les plombs. Les citoyens ordinaires ne canardent pas les flics sans une bonne raison. Des premières enquêtes de voisinage, il ressortait qu'il s'était installé là 5 ou 6 ans plus tôt, qu'il ne se mêlait jamais aux autres et n'adressait la parole à personne. On ne connaissait même pas son nom. Un type pas franchement aimable, mais pas vraiment dérangeant, le profil type, ou presque, du tueur en série. Comment aurait-on pu savoir qu'il cachait chez lui un tel arsenal? On ne l'avait jamais vu avec une arme. Il se ravitaillait environ tous les 15 jours à l'aide d'une petite barque de plastique jaune. Le logement ne lui appartenait pas, et pas davantage le terrain, mais la baraque avait probablement été construite sans permis, et les occupants successifs s'étaient débrouillés pour pirater l'électricité des maisons voisines.
« Pas étonnant que je paye de telles factures !»
soupira la jeune voisine, terrorisée après coup d'avoir vécu seule en compagnie de son bébé tout près d'un tel monstre. On découvrit également un grand nombre de DVD et de cassettes porno sur les étagères de la baraque. Des bouquins sur Hitler, un exemplaire de Mein Kampf, des photos du moustachu et d'Eva, sa blonde, des insignes nazis, ainsi qu'une vingtaine d'exemplaires d'Europe chrétienne, une revue d'extrême droite. Avait-il ouvert le feu sur Hassan parce qu'il était d'origine algérienne? Peu probable. De type berbère, Hassan ne se différenciait pas vraiment de ses collègues français de souche. On avait passé la cabane et les alentours au peigne fin. On n'avait pas trouvé grand-chose. Des bouts de tissu accrochés aux ronces, des canettes de bière, un tas de pierres de l'autre côté de la pile du viaduc, des maillons de chêne rouillés et tordus. Bref, rien de très excitant. Comme Edmé avait eu l'honneur de porter le coup décisif, première fois qu'il tuait un homme, tu parles d'un honneur, et qu'une nouvelle série de meurtres requérait la quasi-totalité des effectifs de la crime, Giovanni lui confia la responsabilité de l'enquête et lui adjoignit Sylvaine Taillard, qui aurait ainsi l'occasion d'élargir son champ de compétences.
« Je ne sais pas ce que t'en penses, mais j'ai la nette impression qu'il nous fout sur la touche, » grommela Edmé.
Il lut dans le regard noisette de Sylvaine de l'étonnement et un autre sentiment qu'il ne parvint pas à déchiffrer. Elle aurait pu être jolie sans la carapace de dureté qui accentuait les angles de son visage. Il n'était plus que deux dans le bureau du troisième étage du 36 quai des Orfèvres. Un vent mordant s'engouffrait par la fenêtre ouverte par Paul Sérignon quelques minutes plus tôt. Les rafales n'avaient pas réussi à chasser le plafond de fumée alimenté avec fureur par les cinq tabagiques du groupe. Edmé vida sa sixième tasse et tenta de chasser l'amertume du café avec sa dixième cigarette.
Pourquoi sur la touche ? Demanda Sylvaine. Tout le monde se fout de l'affaire de l'île aux loups, et pourtant...
Pourtant ?
J'ai... Comment dire ? L'intuition. Je vois pas d'autre mot. Si, l'instinct peut-être. Enfin, je crois pas qu'elle soit si banale que ça.
Tu sais ce qu'on pense de l'intuition à la crime ? Comment l'ignorer ? Giovanni, les autres chefs de groupe et le commissaire principal enfonçaient le clou à chaque réunion, à chaque occasion. On jette l'intuition aux orties, on s'en tient aux faits, aux données scientifiques. Et si l'affaire se révèle compliquée, on compte beaucoup sur les erreurs du meurtrier et un peu sur la chance. Ils n'étaient pas des flics de littérature ou de cinéma, des penseurs immobiles qui se frappaient tout à coup la paume en s'exclamant « Bon sang, mais c'est bien sûr !» ou des super-héros qui défouraillaient à tout va en cavalant derrière une bagnole. Ils étaient des collecteurs de données, des fourmis qui ramassaient tout ce qu'elles trouvaient et le rapportaient à la fourmilière en espérant qu'on en tirerait quelque chose d'utile. Voilà, des fourmis. Patrice Giovanni n'avait d'ailleurs rien trouvé de plus intelligent que rebaptiser son équipe, autrefois les cobras, les fourmis. La hiérarchie avait bien entendu passé un savon au groupe pour avoir voulu venger un collègue blessé en mission. Peut-être que le Corse t'a refilé le bébé parce qu'il a l'intuition, lui aussi, que ça cache une grosse affaire, avança Sylvaine. Elle alluma à son tour une cigarette et, pendant quelques secondes, mêla sa fumée à celle d'Edmé. Elle avait été admise dans le groupe 6 ou 7 ans plus tôt et ils n'avaient pas souvent eu l'occasion de travailler en tête à tête. Elle était vêtue aujourd'hui d'un blouson de cuir, d'un t-shirt gris, d'un jean noir légèrement délavé et de bottines montantes semblables à des chaussures de boxe. Comme chaque jour, elle avait rassemblé ses cheveux châtain clair en une courte queue de cheval qui, serrée très haut sur la nuque, étirait ses yeux et remontait ses pommettes. Il ne se souvenait pas l'avoir vue un jour avec du maquillage et les cheveux défaits. « Giovanni, le syndicat m'a dit qu'il a demandé plusieurs fois à me changer de groupe. Le patron a refusé parce qu'il estime qu'on doit le moins possible chambouler les équipes, mais je suis dans le collimateur. » Faut dire, Sylvaine s'interrompit et rejeta un volumineux nuage par la bouche avant d'écraser sa cigarette dans sa tasse et de lever sur Edmé un regard hésitant. D'un coup de menton, il l'encouragea à poursuivre.
Que t'y mets pas toujours du tien, à vous. Tu donnes presque toujours l'impression de te foutre de tout.
Elle avait de jolies lèvres, pleines, lisses, qu'elle humidifiait fréquemment de la pointe de la langue.
Avoir l'air, c'est pas forcément avoir la chanson, lâcha Edmé d'un ton pincé. Faudrait qu'on y aille maintenant, ou on va encore me prendre pour un fumiste.
Elle avait raison, évidemment, mais aujourd'hui, et il n'était pas d'humeur à recevoir ses vérités en pleine face.
Même signature génétique. Le sperme trouvé sur le corps de la victime appartient bien au type qui vous a allumé sur l'île aux loups.
Blachon, le technicien aux yeux de cocker, fixait ses deux vis-à-vis avec une ironie à peine dissimulée. Un bourdonnement discret, presque recueilli, s'échappait des bureaux de la police scientifique. Edmé disait souvent que la science avait supplanté la religion en Occident, que les types comme Blachon étaient devenus les nouveaux prélats d'un culte tout aussi dogmatique que l'ancien. Les techniciens perçaient les secrets de la matière, délivraient leurs informations comme une parole divine et ne négligeaient aucune occasion de rappeler leur importance à leurs collègues. La plupart des affaires se résolvaient grâce à leurs investigations. Les progrès fantastiques de la science avaient modifié la hiérarchie au sein de la PJ. Informatique, net, GPS, carte bancaire, téléphone portable, caméra de surveillance, biométrie, génétique, balistique, le petit monde de la technologie s'était organisé pour ne laisser aucune place au hasard. Peut-être était-ce l'une des raisons pour laquelle Edmé s'était peu à peu désinvesti de son métier de flic.
Ce type a violé la femme, l'a étranglé, il a pris peur quand il a vu les flics débouler chez lui, il a tiré, vous l'avez flingué, ajouta Blachon. Fin de l'histoire, on dirait, hein?
Content de lui, Blachon. Comme tout se savait dans la maison aux grandes oreilles, il avait certainement entendu dire qu'Edmé, ce je m'en foutiste d'Edmé, refusait pour une fois d'accepter l'évidence. Les analyses ADN coupaient court à toute hypothèse farfelue.
L'ADN prouve qu'il est le violeur, pas le meurtrier, marmonna Edmé en allumant une cigarette malgré l'énorme panneau interdiction de fumer suspendu au-dessus de la chaise de Blachon.
Sûr, il a trouvé une morte devant sa porte et il lui a fait un gosse avant de la remettre à l'eau.
S'esclaffa le technicien en adressant un regard de connivence à Sylvaine. Possible et même probable qu'Edmé eût tort, mais c'est fou comme l'attitude de Blachon lui donnait envie de se crisper sur ses positions.
La victime n'habitait pas sur l'île aux loups. Il a fallu qu'il y emmène, vivante ou morte. Ensuite, il l'aurait violée, étranglée, puis il serait rentré chez lui en l'abandonnant dans la Marne. Ça fait un paquet d'occasions de se faire remarquer, tu crois pas?
Il l'a peut-être baisé avec son consentement. On n'a pas retrouvé de traces de violence sur son corps, enfin, mis à part l'étranglement.
Pourquoi l'aurait-il tué, alors?
Blachon hausse les épaules.
Ce type est un cinglé, vu l'arsenal qu'il planquait chez lui. Je ne sais pas ce qui se passe dans la tête d'un fêlé de son genre, je suis pas profiler.
Il y a donc des choses qui vous échappent, à vous, les techniciens.
Blachon désigna le panneau au-dessus de sa tête et se leva pour ouvrir la fenêtre de son bureau.
Tu n'as pas vu le panneau ?
Edmé se fendit d'un soupir enfumé, s'approcha de la fenêtre, tira une dernière taffe et jeta sa cigarette, qui s'écrasa 6 mètres plus bas entre deux voitures, sur les pavés luisants de la cour intérieure. Des trouées d'un ciel bleu, délavé, s'agrandissaient entre les nuages.
Rien d'autre ? Rien d'intéressant. On cherche toujours l'identité de la femme et de l'homme, mais l'ADN, lui, a déjà parlé et fourni le mobile. Je ne vois pas pourquoi on gaspillerait l'argent du contribuable à poursuivre les investigations.
Blachon lança un nouveau coup d'œil furtif à Sylvaine, assise sur le coin de son bureau, comme pour s'assurer définitivement de sa complicité.
Laisse tomber le miso, pas la peine d'aggraver ton cas.
Edmé se retourna avec vivacité. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a, mon cas?
Ah, t'es bien comme le cocu dans un couple, le dernier à être au courant.
Edmé fut taraudé par la brève mais violente envie de tirer son flingue et de cribler de balles ce serpent de Blachon. Sentant que leur discussion risquait de tourner au vinaigre, Sylvaine le prit par le bras et l'entraîna fermement vers la sortie du bureau. Une lumière radieuse baignait l'île aux loups. En début d'après-midi, les trouées bleues s'étaient agrandies et avaient fini par se rejoindre en escamotant les nuages. Des éclats dorés scintillaient dans le vert tendre des frondaisons agitées par la brise. Au cours du déjeuner à Saint-Michel, Sylvaine avait convaincu Edmé de laisser tomber l'affaire. Quelle importance, après tout, que la femme noyée et le forcené aient eu des relations consenties ou forcées. On tient un coupable, on a neutralisé un type dangereux, on ne va pas, en plus, reconstituer son emploi du temps seconde par seconde. D'accord? C'est frustrant de boucler une enquête sans parvenir à éclairer toutes les zones d'ombre. Mais comme on ne pourra jamais obtenir d'aveu, il faut s'en contenter. Edmé avait acquiescé d'un hochement de tête. La moutarde extra-forte n'avait pas rehaussé le goût de sa viande. Il y avait bien longtemps qu'il ne trouvait plus de goût aux aliments. Les pensées roulaient en torrents sous son crâne. Pourquoi tout à coup s'accrocher comme un con à une affaire dont la banalité crevait les yeux?
Qu'est-ce qu'il espérait? Bientôt 55 ans, il filait à grands pas vers la fin de sa vie. Le vide s'était fait autour de lui. Ses parents étaient morts. Il ne voyait sa sœur installée dans le sud qu'une ou deux fois par an. Il errait comme un astre presque mort dans un ciel vide. Il savait au fond de lui qu'il ne survivrait pas longtemps à son départ à la retraite. Il n'avait aucune envie de campagne, de voyage en groupe, de parties de cartes au bistrot du coin, d'activités débiles destinées à retarder l'Alzheimer, aucune envie de pourrir comme un légume dans une colonie de grabataires. À la fin du repas, il avait demandé à Sylvain de retourner une fois, une seule fois sur l'île aux loups, juste histoire de... De toute façon, il n'avait rien d'autre à faire de la journée. Les autres étaient mobilisés par la série de crimes qui ensanglantaient les quartiers chics de l'ouest parisien. Le ministre de l'Intérieur avait vitupéré devant les caméras de télé, la PJ avait lancé tous ses limiers ou presque sur la piste brûlante du ou des tueurs en série, les brigades se livraient l'habituelle compétition acharnée, les croche-pieds et autres vacheries se multipliaient, coups de pied dans la fourmilière, fourmis affolées, rien de très nouveau sous le soleil de Paris. On traverse. Sylvain acquiesça sans enthousiasme. Un riverain obligeant avait mis une barque en bon état à la disposition des enquêteurs. Le courant, assez violent, charriait des branches de différentes tailles arrachées par les bourrasques. Même si les flics, novices dans l'art de la rame, se mirent à deux pour manœuvrer l'embarcation, ils ratèrent lamentablement les deux premiers pontons et réussirent de justesse à aborder le troisième. Une femme surgit du sentier et vint à leur rencontre à peine eurent-ils posé le pied sur les planches de bois. Une artiste peintre d'une soixantaine d'années, une excentrique qu'Edmé avait déjà interrogée et qui, sans doute, passait le plus clair de son temps à surveiller les allées et venues sur la Marne. Elle portait une tunique de soie bariolée et légère, au travers de laquelle se devinaient ses sous-vêtements couleur chair et ses formes lourdes. Des mèches de ses cheveux teints en acajou dépassaient de son bandana noir. Elle piqua droit sur Edmé et lui tendit la main. « Bonjour, inspecteur !» Edmé lui serra la main avant de se tourner vers Sylvaine. « Je vous présente l'officier Taillard. Ah, il n'y a plus d'inspecteur dans la police, mais des officiers. Nous sommes tous les deux lieutenants. » Les chants d'oiseaux dégringolaient des branches en grappes serrées. Comme à chaque fois, Edmé fut frappé par l'atmosphère paisible, enchanteresse des lieux. La femme au bandana dévisagea un petit moment Sylvaine, comme si elle hésitait à la classer dans la catégorie des personnes de confiance. « J'ai oublié de vous dire quelque chose l'autre jour. »«
Dites toujours, maugréa Edmé. »
Elle essayait sans doute de se rendre intéressante, une manie chez la plupart des témoins. « Le tueur, celui qui vous a tiré dessus, je l'ai aperçu à plusieurs reprises dans un coin paumé de l'île. Il avait l'air occupé, mais je n'ai pas réussi à voir ce qu'il fabriquait. »«
Il y a des coins paumés sur cette île ?»«
Derrière sa cabane. La Marne s'avance dans la végétation, ça fait comme une petite crique. » C'était chaque fois en pleine nuit. Edmé alluma une cigarette pendant que Sylvain enroulait la chaîne de la barque autour de l'un des poteaux de la rambarde.
« Qu'est-ce que vous fichiez là-bas en pleine nuit ?»«
Je peins toujours la nuit et je sors parfois pour chercher l'inspiration. Je me laisse guider, je vais là où me portent mes pas, je cherche, comment dire, les bonnes vibrations, une forme subtile de communication. Enfin, je ne sais pas pourquoi je vous raconte ça. À force, je connais l'île comme ma poche. »
Et l'autre, il ne vous a pas entendu ?
Je ne crois pas. Heureusement d'ailleurs, vu ce qu'on sait sur lui maintenant. Une seule fois, il a tourné la tête dans ma direction, j'étais caché par un buisson. Il ne m'a pas repéré.
Et cet endroit, vous pouvez nous y conduire ?
Certainement.
Ils se rendirent près de la baraque de tôle et de bois ceinturée d'un ruban fluo de sécurité. La femme contourna la barrière du jardin pour s'enfoncer sans hésitation dans la végétation qui se dressait un peu plus loin, comme une infranchissable muraille. Un passage y avait été pratiqué, pas large, mais suffisant pour se glisser sans dommage entre les ronces et les branches. Dingue de se retrouver dans une telle jungle au cœur de la région parisienne. Du sol de plus en plus mou montait une odeur de vase infiltrée par les senteurs d'herbes humides et les parfums des arbres en fleurs. Ils marchèrent environ une minute avant de déboucher sur la minuscule crique dont avait parlé leur guide. Au bord de l'eau s'étendait une grève de terre de 3 ou 4 mètres de long et de 2 mètres de profondeur. Un endroit effectivement tranquille, reculé, protégé des regards par les frondaisons et les herbes hautes. La première chose qui frappa Edmé, ce fut l'amoncellement des branches brisées déposées par le courant sur les bords de la crique. La deuxième,
les petits bouts de chêne rouillé qui traînaient un peu partout dans la boue. La troisième, une forme allongée qui flottait entre les herbes. Un corps.